Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Louis Blin. Louis Blin qui est un diplomate qui travaille au Centre d'analyse de prospective stratégique du Quai d'Orsay, mais surtout qui est un tintinophile, ainsi que l'on qualifie les amateurs éclairés de Tintin. Louis Blin, vous avez publié Le Monde arabe dans les albums de Tintin, donc vous faites un peu une géopolitique de Tintin, et vous commencez votre livre en écrivant que finalement Tintin est un héros imaginaire dans un monde réel.
Oui, tout à fait. On a évidemment des grands hommes tous en tête, mais il y a des personnages illustres qui sont imaginaires, comme Tintin, et qui ont eu autant d'importance ou bien d'impact sur leur époque, et même après leur époque, que des personnages aussi connus que De Gaulle, puisque De Gaulle le premier lui disait que mon seul rival international, c'est Tintin.
Alors, on avait dit surtout au moment de quand De Gaulle était au pouvoir, avec le départ d'Astérix, qu'Astérix incarnait la résistance gaulienne, non pas aux Romains, mais aux Américains, et qu'il y avait une conjonction entre l'arrivée de De Gaulle au pouvoir et la publication d'Astérix, l'arme atomique étant peut-être la potion magique de De Gaulle. Qu'est-ce que nous dit Tintin de la géopolitique? On a beaucoup accusé Hergé de connivence avec l'extrême droite, et Tintin a été largement accusé d'être réactionnaire, colonialiste. Est-ce que l'on peut faire pièce de ces accusations?
Alors Tintin est l'image de son époque, sans aucun doute. Hergé est un enfant donc de la Première Guerre mondiale et du scoutisme, donc à la fois un rejet viscéral de la violence de la Première Guerre mondiale et un espoir de bâtir un monde meilleur, mais pas par la politique, puisque évidemment la politique venait d'échouer lamentablement, mais par d'autres voies. On peut le qualifier d'anarchiste de droite. Donc à son époque, bien sûr, l'Europe était triomphante et il avait un message donc purement européen que certains peuvent bien sûr accuser de colonialisme, mais je crois que c'était un message colonial, donc de l'époque coloniale, mais pas colonialiste, parce qu'il n'était pas là pour essayer de délivrer la bonne parole ou bien pour essayer d'imposer quoi que ce soit au pays où Tintin se rendait. C'est plutôt un message de solidarité, non pas de solidarité politique à l'égard des peuples opprimés, mais de solidarité entre les hommes. C'était un homme qui était plus intéressé par l'humain que par les idées. Donc en ce sens-là, il était très actuel, mais il l'est toujours, puisque justement, jusqu'à présent, donc, il y a cette lutte entre les idées et l'humanisme. Des idées humanistes ont pu dévoyer l'enfer étant pavé de bonnes intentions, ont pu dévoyer au XXe siècle de très beaux idéaux. Maintenant, on ne sait plus si ces idéaux sont encore, même jusqu'à la démocratie, elle est en question. Donc on retourne à Tintin parce que à travers Tintin, on voit qu'il y a au-delà donc, des grandes idées qui, malheureusement, sont souvent dévoyés des solidarités entre les hommes qui franchissent les océans. Alors Tintin est souvent...
Vous faites une comparaison entre Tintin et Don Quichotte.
Oui, c'est ça, exactement. Tintin, vous savez, la devise scout, c'est « toujours prêt ». Donc il faut toujours essayer de faire traverser la dame qui attend au coin de la rue et qui est dépassée par les événements. Bon, de temps en temps, la dame n'a pas envie de traverser, alors c'est une erreur. Mais il faut toujours être prêt pour essayer d'aider donc les faibles. Alors, Tintin n'est pas toujours du côté des faibles, il peut être aussi avec certains que nous, on considère actuellement comme des forts. Par exemple, Tintin au Congo a été beaucoup critiqué.
Certains ont même proposé que la bande dessinée ne puisse plus être publiée. Que pensez-vous de cette polémique?
Oui, écoutez, il faut prendre Tintin pour ce qu'il est. Hein. Donc, bien sûr, il n'y avait aucune volonté de démonstration. Par contre, il y avait les préjugés de l'époque ce qui l'importe, c'est de sous les pavés à la plage. Sous les préjugés, il y avait des tas de choses, ce qui est extraordinaire lorsqu'on creuse, parce que l'aventure de Tintin, en fait, c'est un signe de piste. Donc, Hergé était un auteur extraordinaire et notamment un auteur symboliste. C'est l'héritier de l'école symboliste de Mallarmé, Baudelaire. Et donc.
Et marqué également, vous le dites, par Henri de Montfred.
Oui. Henri de Montfred également. Donc, c'est un grand auteur littéraire. Il fait partie du quota des grands auteurs français du XXe siècle. Enfin, français, francophone, ouais. En l'occurrence.
Ce qui est, alors que Tintin, donc, est régulièrement accusé d'être du côté des puissants, d'être colonialiste, on vient d'en parler, et en même temps, très souvent, il vient au secours des faibles, qu'il s'agisse du petit enfant en Amérique latine, au Pérou, ou bien sûr, finalement, des petits Chinois par rapport à l'occupant japonais. Donc il y a une sorte de contradiction entre la vision de Tintin colonialiste et en fait un Tintin qui vient au secours des faibles.
Voilà, donc au Pérou, c'est Zorino, en Chine, c'est Chang, et dans le monde arabe, c'est Abdallah. Alors Abdallah est un personnage passionnant, dont on a que très peu analysé la portée. Abdallah en arabe, ça veut dire le serviteur de Dieu. Bien sûr, Hergé n'avait aucune sympathie particulière pour quelque islam que ce soit, et il n'avait même pas du tout d'intérêt pour la culture arabe. Mais il n'empêche qu'il appelle son héros préféré, c'est un ami de Tintin, c'est un héros positif, le serviteur de Dieu. Alors, ce petit serviteur est un garnement qui ressemble au voyou de Bruxelles. Donc, il embête tout le monde, mais il n'est pas odieux parce qu'il est arabe. Il est odieux parce qu'il fait des bêtises toutes les cinq minutes.
Et donc, c'est un enfant gâté.
Voilà, c'est un enfant gâté. Et pour tous les enfants gâtés de 7 à 77 ans qui lisent Tintin, eh bien, ça devient un ami. Donc, grâce à Hergé, tous ces petits lecteurs auront eu un ami qui s'appelle Abdallah, le serviteur de Dieu.
Et vous mettez en avant le fait que Tintin ne s'occupe pas des déshérités, mais d'un déshérité. Sa solidarité, elle est individuelle plus que collective. Donc il vient effectivement au secours de ces personnages qui sont battus, maltraités par des adultes puissants, mais c'est jamais une cause collective sur l'enfance esclave, etc. C'est toujours une empathie et une solidarité individuelle.
Voilà. En fait, dans la géopolitique de Tintin, il faut commencer par comprendre que pour lui, la politique, c'est quelque chose de répréhensible a priori. Il n'a aucune confiance en qui que ce soit. Il est élevé dans cette ambiance qui, malheureusement, était très, très répandue dans l'entre-deux-guerres, que tout est un complot mondial, que ce soit un complot des riches américains ou bien alors des communistes. Enfin, donc, il n'a confiance en personne. Ce qu'il faut, c'est dépasser cela pour essayer de bâtir des solidarités entre les hommes. Alors, il a complètement manqué tout ce qui était mouvement collectif du XXe siècle, en particulier la décolonisation. Hein, tout ce qu'il a écrit sur le monde arabe, c'était avant les années de décolonisation. Donc là, il ne faut pas lui demander ce qu'il ne pouvait pas.
Vous écrivez qu'il peut tendre la main à un homme, mais pas à un peuple.
Voilà, exactement. Donc c'est finalement un des côtés très actuels de Tintin. Bon, on peut le regretter peut-être, mais c'est souvent le cas maintenant. On a tellement eu de déboires, de déceptions, que on recommence au niveau donc des relations de personne à personne. C'est toujours mieux que de faire le contraire. En tout cas.
Lorsque Tintin parle du monde arabe, au début, il renvoie arabe et juif dos à dos et ne donne pas, écrivez-vous, d'indications sur le conflit en cours dans la région où il débarque.
Oui, ça c'est donc le fameux Tintin au pays de l'or noir que beaucoup considèrent comme l'album emblématique de Tintin dans le monde arabe. En fait, c'est pas le premier, puisque le premier c'était Les Cigares du Pharaon, et c'est celui qui, là, qui à mon avis explique le reste. Dans Tintin au pays de l'or noir, là, il colle à l'actualité puisqu'il va là-bas en plein conflit judéo-arabe. Donc, c'était avant la Première Guerre mondiale. Mais il est, pour des raisons que j'explique dans le livre, obligé d'interrompre son aventure pendant 10 ans. Et donc, il la reprend après l'indépendance d'Israël. Et là, donc, évidemment, tout le cadre de l'histoire a changé. Mais il n'empêche que à ce moment-là, il conserve donc ce conflit pour la terre, puisque Tintin débarque à Haïfa en plein conflit donc arabo-sioniste. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout plu au traducteur anglais, qui en 1971, lorsque Hergé a accepté la traduction anglaise, et c'est à partir de la traduction anglaise que beaucoup d'autres versions de Tintin ensuite étaient traduites dans d'autres langues, eh bien, on était en 71, c'est-à-dire juste après la guerre des Six Jours, et l'éditeur anglais a exigé que tout conflit israélien arabe soit évacué de cet album alors qu'il en constituait la base. Et Hergé a obtempéré malheureusement, si bien qu'il y a 3 pages qui ont sauté, et à la place on a une histoire de trafic d'armes entre arabes dans un pays fictif qui s'appelle le Remed, alors qu'au départ on était en Palestine. Et donc on voit bien comment Hergé était donc un complice de la disparition de la Palestine des aventures de Tintin, ce qui est bien malheureux.
Vous écrivez qu'il avait accepté de réviser L'île noire à la demande de son éditeur britannique pour que l'aventure écossaise colle davantage à la réalité, qu'il a également révisé Coq en stock pour ne pas trop choquer les Noirs, qu'il a révisé également Tintin au pays de l'or noir, ce que vous venez de dire, mais qu'il n'a jamais rien modifié concernant les Arabes dans ses albums.
Voilà. Sur la plupart des. Il y a 4 albums qui s'occupent du monde arabe. Sur la plupart de ces albums, l'image de l'arabe est tout à fait dévalorisée. Hein, il y a certains arabes héropositifs, mais en général, même s'ils sont positifs, ce ne sont pas des modèles, c'est plutôt des arabes inoffensifs, certes, mais pas très malins. Donc, lui, il a considéré qu'il n'y avait aucun problème à montrer les arabes tels quels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les arabes aiment Tintin autant que nous. Donc, ils sont peut-être assez intelligents pour prendre le recul nécessaire et pour, malgré donc cette image dévalorisante que, bien sûr, Hergé donnait à l'image tout simplement de son temps, eh bien, l'aventure de Tintin était tout de même quelque chose d'intéressant et qui ne les éloignait pas de ce texte. Mais évidemment, les partisans, enfin en général, tous ceux qui n'aimaient pas les Arabes trouvent beaucoup de choses qui renforcent leurs convictions dans Hergé. Donc, on ne peut pas dire que Hergé avait une ambition donc de dévaloriser les Arabes, mais par contre, ce qu'il a mis dans ses albums sans le savoir sans doute a été utilisé on peut donc en résumé conclure qu'il n'était pas raciste, en l'occurrence contre les Arabes, mais qu'il a nourri le racisme anti-arabe.
Alors, comment se documentait-il sur le monde arabe? Parce qu'il y a à la fois son dessin est très précis, mais il y a en même temps donc des pays fictifs, des personnages fictifs. Comment se documentait-il?
Bon, c'est un grand lecteur. Il n'a jamais mis les pieds dans le monde arabe avant la fin de son dernier album consacré au monde arabe. En fait, il n'était pas du tout attiré par cette culture ni cette partie du monde. Et donc, il avait des amis, notamment donc des Marocains en Belgique, qui l'ont aidé à traduire certains albums, de manière tardive. Et il lisait beaucoup. Donc, bien sûr, l'actualité arabe était à son époque aux premières pages des journaux. Mais ce qui importe, et c'est ça qui est tout à fait saisissant dans cette affaire, c'est que quelqu'un qui donc n'a aucune inclination particulière vis-à-vis de cette partie du monde envoie son héros, qui est son fils rêvé, dans le monde arabe plus que partout ailleurs. Ça prouve que...
Comment l'expliquer ?
Le monde arabe est à la base de notre culture, même quand on ne le souhaite pas ou bien qu'on ne s'en aperçoit pas, parce que c'est là que tout commence. En fait, toute la quête de la vérité de Tintin dans tous ses albums, puisque les albums de Tintin, c'est toujours je vais voir là-bas si j'y suis, hein, en gros. Donc, où qu'il aille, c'est pas le pays ou bien ses habitants qu'il recherche, c'est lui-même. Et à la fin, bien sûr, il s'aperçoit que c'est en Belgique qu'il peut se retrouver vraiment lui-même. Donc, un occidental avec toute la culture, le bagage culturel énorme qu'avait Hergé à l'époque, eh bien, lorsqu'il se recherche lui-même, qu'il recherche ses racines, où va-t-il ? Eh bien, il va dans l'Orient arabe. Hein, tout d'abord en Égypte, ensuite en Arabie. Et c'est là la destinée de l'homme occidental qui est vraiment personnifiée, en l'occurrence par Tintin dans ses albums.
Parce qu'en fait, Hergé se projette dans Tintin, comme on l'aura compris rapidement. Hergé se rêvait en grand reporter ou aventurier, un peu comme Arthur Londres ou Henri de Montfred.
Voilà, Hergé disait « Tintin, c'est moi ». En fait, toute sa vie prouve le contraire, puisqu'il, lui, il n'a pratiquement pas bougé de Belgique.
Mais enfin, donc il a voyagé par procuration.
Voilà, c'est ça. Tintin est le fils qu'il aurait toujours voulu avoir, mais il n'a pas eu d'enfant. Et il est le reporter sans peur et sans reproche qu'il aurait voulu devenir, mais qui n'a jamais été. Et il est le complément des héros de Hergé. Alors, les héros, c'est ceux, les deux que vous avez cités, ainsi que les deux grands reporters qui ont servi tour à tour de modèle à Tintin, puisqu'il était reporter lui-même, à savoir Albert Londres et Joseph Kessel.
Vous dites, en parlant de Tintin au Congo, qu'il avait, pour écrire cet album, emmagasiné une documentation importante, et que, en fait, donc, une fois encore, il reflète ce que l'on disait à l'époque, et que c'était pas sa volonté, et que ce qu'il met n'est pas le fruit de son imagination, mais bien la réalité telle qu'elle était présentée à l'époque.
Voilà, alors donc, Tintin au Congo et Tintin en Amérique répondaient à des commandes. Donc, il fallait qu'il mette ce, en gros, à quoi s'attendaient les lecteurs, puisque c'était une commande de l'éditeur. Par contre, à partir des Cigares du Pharaon, un premier album qui, cette fois-ci, est une initiative personnelle d'Hergé, eh bien là, on a son fort intérieur qui ressort. Et c'est ce qui est spectaculaire, c'est justement donc, que la première chose qu'Hergé fait donc, dans le premier album qui correspond vraiment à son souhait, c'est d'aller en Orient, donc premier pays l'Égypte, et ensuite l'Arabie, puis l'Inde et la Chine.
Si on s'éloigne un peu du monde arabe qui vous est cher, Tintin et les Picaros, c'est aussi quand même une critique assez nette des régimes militaires sud-américains.
Oui, c'est une critique de tous les régimes même. C'est-à-dire, il y a bien sûr, avant tout, cette critique que vous venez d'évoquer, mais aussi il y a la critique des révolutionnaires qui ne sont pas forcément meilleurs que les régimes en question. Donc tout le monde passe à la moulinette parce que malheureusement, ce n'est pas de la politique que peut venir le salut. Encore une fois, c'est sa conviction de scout qui revient, c'est à partir de la solidarité de base.
Vous posez la question de savoir si Hergé aurait dessiné dans Charlie Hebdo.
Ah tiens, non, j'ai jamais pensé à ça. Je pense qu'il avait, bien sûr, cet esprit-là, puisqu'il était, il avait beaucoup de recul et beaucoup de scepticisme vis-à-vis de son époque. Par contre, il ne l'aurait pas fait, à mon avis, parce que c'était un doux. Il n'était pas... Il ne voulait pas provoquer. C'est quelqu'un qui était tout en nuances. Et c'est ça, d'ailleurs, souvent qu'on n'a pas compris, parce que lors de son attitude pendant l'occupation, il n'a pas été un fer de lance de la résistance, mais il a résisté à sa façon, d'une façon subtile. Ensuite, on l'a taxé d'être collaborateur, parce qu'il avait publié pendant l'occupation. Mais en fait, non, c'était vraiment quelqu'un qui refusait toute caricature. Donc Hergé, c'était pas vraiment Charlie Hebdo, non.
Alors, certes, vous dites, on ne peut ni le taxer d'être colonialiste, ni d'être militant, parce qu'il ne cherche pas à civiliser. Et donc, si, concluez-vous, il ne s'est pas prêté à une révision post-coloniale qui aurait été en contradiction avec lui-même, en même temps, il n'a pas voulu abandonner l'europocentrisme.
Voilà, c'est ça. Ça, c'était trop lui demander, non? C'était quelqu'un qui... C'était pas un révolutionnaire. Donc, c'était avant tout un artiste. Hein. Il a fait, bien sûr, de la bande dessinée, mais au départ, c'était un dessinateur et à la fin de sa vie, c'était un peintre incompris. Maintenant, ces toiles valent une fortune, mais à l'époque, personne n'y a fait trop attention. Donc, c'était un artiste qui était dépassé par son art. Son art, à l'époque, tout de même, Hergé, il faut le savoir, était l'un des pionniers de cet art qui est devenu la bande dessinée. Ensuite, bien sûr, tout le monde l'a plus ou moins imité. C'était un artiste qui, simplement, avait... c'était une personnalité tourmentée, comme beaucoup d'artistes, et qui voulait extérioriser tout ce qu'il avait dans son art. Et il n'a jamais été capable de s'expliquer sur ce qu'il a fait. Et tout ce que ça fait le bonheur de tous les analystes, d'ailleurs de Tintin, parce que comme lui ne l'a pas fait, nous
chacun est libre de le faire.
Voilà. Exactement.
Vous concluez votre livre en disant que Hergé avait adopté une attitude d'observateur au balcon d'un monde troublé, refusant de traduire en engagement son empathie pour les opprimés, arabes ou non.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début, mais je crois que ça le résume bien. Oui, c'est un observateur. On le voit, on le verrait assis au bord d'un balcon et contemplant Paris qui prétend donc à beaucoup de choses et qui en fait retombe toujours dans les mêmes problèmes. C'était tout de même quelqu'un d'extrêmement pessimiste, c'était un grand sceptique.
Merci Louis Blin, il n'y a pas besoin d'avoir des raisons pour relire les albums de Tintin, parce que bien sûr chacun les a déjà lus, mais je pense que votre livre, Le monde arabe dans les albums de Tintin, paru pour une deuxième édition aux éditions L'Harmattan, apporte un éclairage à la fois original et nouveau, et une lecture géopolitique à laquelle on ne pense pas immédiatement lorsque l'on se délecte des albums de Tintin. Merci.
Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est gentil.